Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 novembre 2024 et demain matin, le monde ne sera plus jamais pareil puisque, vous le savez, aujourd'hui, c'est le jour des élections aux États-Unis. Enfin, je vous dis, vous le savez, j'espère que vous le savez. Parce que si vous étiez dans une grotte, au fin fond d'une grotte depuis 6 mois, effectivement, vous avez raté des trucs. Mais si vous étiez dehors et que vous avez accès à un peu de Wi-Fi, vous avez dû subir le matraquage absolu de ce qu'on nous balance aujourd'hui au niveau des élections. Donc, pour l'instant, eh bien, pas grand-chose d'autre à vous raconter, si ce n'est qu'on attend, on est vraiment en mode salle d'attente, on attend de voir ce qu'ils vont nous réserver, parce que la grande question, semble-t-il, en tout cas du point de vue européen, c'est que la seule chose qui intéresse les marchés, c'est plutôt de savoir si Trump va perdre, parce que la victoire de Kamala Harris n'est pas forcément une victoire en général, puisqu'on n'est pas vraiment convaincu qu'elle va changer grand-chose, de toute façon, derrière. Mais l'un dans l'autre, on a surtout l'impression que c'est la défaite de Trump qui intéresse le plus les gens en général, peut-être pas le marché, mais les gens en général. Donc, on aura les premiers résultats dans la nuit prochaine. Encore une fois, il est extrêmement difficile de savoir ce que ça va changer. Pour nous, je parle en termes d'investisseurs. Bien évidemment, pour le reste, c'est autre chose. Mais en termes d'investissement, il est difficile de savoir ce que ça pourra nous apporter de plus ou de moins en fonction de qui sera élu. Évidemment, si c'est Kamala Harris qui est élu, ce sera plutôt favorable à tout ce qui est énergie verte. Et si c'est Trump qui est élu, ce sera plutôt favorable au pétrole. Mais l'un dans l'autre, ça risque d'être principalement des mouvements à très court terme, des ajustements de position, mais ça ne devrait pas changer grand-chose sur la photo finish et sur le comportement du marché. Un marché qui reste de toute façon relativement serein aujourd'hui, même si hier on s'est rendu compte que finalement les gens étaient plutôt en train d'ajuster les positions en réduisant le risque, probablement. On a vu que l'Europe était en baisse, que les États-Unis étaient en baisse également. Rien de bien folichon. On attend d'en savoir plus. C'est vraiment le maître mot, l'attentisme. Et tant qu'on ne saura pas qui est président ou présidente, il n'est pas sûr qu'on reprenne une vie normale. Et c'est le plus gros souci, d'ailleurs, qui pourrait nous préoccuper ces prochaines heures, c'est que nous n'ayons pas de réponse demain matin. Et c'est aussi là-dessus que, si les sondages ne sont pas tous d'accord sur qui est en tête aujourd'hui, il y a une quasi-certitude de savoir qu'il y a peu de chances que demain matin, on sache. Pourtant, on aimerait bien savoir, et c'est peut-être là le seul problème que nous aurons, c'est dans le cas où nous ne savons pas. Donc voilà, on va pas essayer de tirer un plan des plans sur la comète. Perso, si vous me donniez 1 million aujourd'hui en me disant, tiens, on te donne 1 million, tu peux l'investir comme tu veux, et on te dit déjà le nom de qui sera le président demain matin, je ne saurais pas quoi acheter, je ne saurais pas si réellement j'ai envie de prendre des risques 24 heures avant cette décision ultra importante pour le monde entier et un petit peu pour les marchés financiers aussi. Donc pour l'instant, on attend, ça ne sert à rien de spéculer plus que tant, aujourd'hui les dés sont jetés, on verra bien ce qui se passe, mais je vous dis, le plus gros stress qui revient régulièrement dans les médias financiers, c'est une certaine instabilité, parce que si demain on n'a pas un résultat clair, il y aura toujours cette division aux États-Unis qui est énorme et qui pourrait provoquer une certaine instabilité, pour ne pas dire des manifestations monstrueuses, mais c'est vrai qu'il y a des craintes de ce côté-là, et quand vous lisez un petit peu les écrits de certains historiens, eh bien, on vous dit que les États-Unis n'ont jamais été aussi proches d'une guerre civile, parce que il y a vraiment trop de séparation entre la droite et la gauche, quelque part, et finalement, il n'y a plus moyen de retrouver un certain apaisement. Et c'est ce que tout le monde espère, au fond d'eux, c'est en se disant, peut-être que si Kamala Harris devient présidente, eh bien, les Américains vont retrouver l'apaisement et vont tous se ranger derrière elle. Mais ce qui a l'air quand même un tout petit peu improbable dans l'immédiat. Enfin bref, le plus gros problème aujourd'hui des marchés, ce serait de ne pas savoir demain et de se retrouver dans une gestion de ce manque d'informations et de ce doute permanent qui, généralement, crée de l'instabilité. On sait aussi que, statistiquement, après les élections présidentielles, on a toujours beaucoup plus de volatilité, enfin, plus de volatilité qu'on en a avant. Donc, on peut s'attendre à des périodes un peu plus sportives. Et à plus forte raison si nous ne savons pas qui est président demain matin. Donc pour l'instant, tout ça est en pending et ça se ressent sur le marché qui ne fait pas grand-chose. À côté de ça, on voit qu'il reste quand même relativement fort. puisque hier, une des thématiques de la journée, c'était quand même le fait que Nvidia s'est bagarré avec Apple toute la journée pour être la plus grosse capitalisation boursière du monde. Apple a gagné encore cette manche-là, mais ça ne saurait, ça risque de changer ces prochains temps. On verra en fonction des résultats de Nvidia qui seront publiés le 20 novembre. En tout cas, on voit que malgré tout ça, il y a encore un certain soutien assez impressionnant à Nvidia, entre autres, puisque malgré toutes les histoires relativement négatives qui tournent liées à Supermicro, dont je vais y revenir tout de suite, eh bien, on voit quand même que Nvidia reste très fort pour l'instant et très solide. Il faut dire que dans quelques jours, elle va être intégrée dans le Dow Jones et faire virer Intel à sa place. Donc, du coup, les gens sont très, très motivés là-dessus, même si on sait que même quand il y a une intégration dans un indice comme le Dow Jones, même s'il y a des rebalancements, il y a une grande partie qui est déjà faite en amont et ça ne devrait pas changer grand-chose. Ce qui va changer grand-chose, surtout pour Nvidia, ce sera sa publication du 20 novembre. Mais à côté de ça, il y a l'histoire de Supermicro. Supermicro qui a toujours beaucoup de problèmes, qui ne trouve toujours pas d'auditeur pour remplacer EY, ou autrement dit Ernst & Young, qui sont partis il y a quelques jours. On ne sait toujours pas ce qui ne va pas à l'intérieur de la société, mais si on en croit les articles du Barron's de ce matin, franchement, c'est pas folichon, parce que on voit quand même qu'il y a beaucoup de liens familiaux entre à l'intérieur de Supermicro, mais aussi à l'extérieur, puisque le CEO a sa femme qui est également au board de Supermicro, et que les deux plus gros fournisseurs de Supermicro sont deux sociétés qui s'appellent Ablecom et Compuware, qui sont détenues par les frères de Liang, et Liang lui-même est actionnaire de ces deux sociétés. En plus de ça, ces deux sociétés ont créé une troisième pour créer des serveurs qui ressemblent étrangement au serveur de Supermicro de l'autre côté. Donc il y a un espèce de lien familial très très fort au niveau de Supermicro qui, semble-t-il, pourrait avoir des conséquences assez désastreuses sur le management. Management d'ailleurs qui est remis en question puisque Monsieur Liang, le patron de Supermicro, est considéré comme un visionnaire, mais par contre il n'y a aucun plan de succession. Pourtant aujourd'hui, quand on écoute un peu les analystes qui suivent Supermicro, ils disent que le meilleur moyen de mettre les choses à plat serait de sortir ces problèmes interne, de changer de CEO et de repartir à zéro, pour autant qu'il y a encore un peu de crédibilité sur la société. Mais le problème, c'est qu'il n'y a absolument personne derrière M. Liang pour prendre sa succession et pour essayer de tenir la boîte à sa place. Donc, beaucoup d'interrogations. L'analyse de chez Wedbush, qui est généralement plutôt bullish sur la technologie, a baissé, a conservé son rating sur attendre, avec un target à $32, donc on n'est pas loin de là où on est pour l'instant, et tant qu'on n'aura pas d'informations supplémentaires, ça sera difficile d'y croire à nouveau. Il faudrait déjà que Supermicro puisse trouver une organisation qui veut bien faire son audit. Le problème, c'est quand vous avez un EY qui vous claque la porte au nez en disant que ça pue trop à l'intérieur, et pour continuer comme ça, on voit mal qui aurait des pensées suicidaires suffisamment avancées pour pouvoir aller bosser pour Supermicro tant qu'on ne sait pas exactement ce qui se trame à l'intérieur de la société. Donc le suspense est toujours complet autour de Supermicro parce qu'ils communiquent quand même très très peu. Malgré tout ce qu'on leur reproche, je trouve qu'ils sont extrêmement silencieux pour se défendre. Ils se défendent, mais mollement quand même. Donc ça reste un problème parce que n'oublions quand même pas que Supermicro est quand même juste le troisième plus gros client de Nvidia, et si Supermicro venait à être délisté, comme le Nasdaq l'a menacé le 16 novembre, s'ils n'ont pas remis tous les documents nécessaires, eh bien ça pourrait être un sacré problème structurel pour Nvidia. Quand même, je dis au conditionnel, ça pourrait. Et puis, il faut noter aussi que c'est pas la première fois dans l'histoire que Supermicro est délisté, puisque ça leur était déjà arrivé en 2017 pour un problème un peu similaire. Donc, un beau panier de crabes sur Supermicro, mais ce qui n'empêche pas Nvidia de continuer à monter sans aucun problème. Et pour renforcer cette solidité sur Nvidia, pour renforcer ce narratif ultra positif sur l'intelligence artificielle, eh bien, on notera encore que hier soir, il y a Palantir qui a publié ses résultats. Palantir, qui est une société qui est aussi très controversée parce qu'on ne sait pas trop qui sont leurs clients parce qu'ils bossent beaucoup dans le secret, mais il semblerait quand même que la CIA soit très présente derrière. Et je dis bien encore, il semblerait. Mais de l'autre côté, ils ont publié des résultats nettement meilleurs que les attentes, avec des perspectives plutôt satisfaisantes et surtout des commentaires ultra positifs de la part d'Alex Karp, le CEO de Palantir. Alex Karp a déclaré hier qu'ils avaient littéralement éviscéré le trimestre. C'est un peu violent comme terme, mais ils ont éviscéré le trimestre, donc carton plein. Il a dit que la révolution de l'intelligence artificielle était en marche et que rien ne pourrait l'arrêter et que tout allait bien. Enfin, un discours qui ressemble assez au discours que font en général le management de Nvidia. Donc, tout à fait aligné dans la même thématique. Le titre prenait 14% hier soir et renforçait encore cet engouement généralisé qu'on a encore malgré la situation sur l'intelligence artificielle. Donc maintenant, on va pas se prendre la tête plus longtemps, on va attendre la nuit prochaine pour savoir où on va au niveau électoral, pour voir si réellement ça va nous changer quelque chose plus tard. Mais plus ça va de l'avant, plus je me dis que la chose la plus importante, c'est qu'on arrête de parler de sélection, parce que ça devient juste épuisant et à la limite de l'écœurement général. Encore un petit mot sur la Chine. La Chine a publié un PMI supérieur aux attentes ce matin. On attendait 50.5, ça sort à 52. Donc encore une bonne surprise, une deuxième de suite pour les chiffres économiques chinois. Est-ce que le stimulus serait en train de marcher? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement chinois est toujours en réunion cette semaine et on s'attend à tout moment à avoir des informations sur la suite de l'évolution du stimulus qui aujourd'hui est un tout petit peu trop axé sur les grandes sociétés mais pas assez sur le consommateur. Donc on attend de voir un peu ce qui va sortir de ce côté-là, mais il semblerait quand même qu'au niveau économique, il y ait quelques vibrations qui soient un tout petit peu plus optimistes que ce qu'on a vécu ces derniers temps. Le consommateur chinois va être surveillé très attentivement, bien sûr, pour faire référence au luxe, parce qu'on voit quand même, compte tenu des résultats et compte tenu du comportement du secteur de luxe, que c'est pas facile en ce moment, et qu'on attend vraiment d'avoir des signes positifs qui reviennent du côté de Shanghai pour pouvoir respirer un peu mieux du côté du luxe, mais ça passera aussi peut-être par une extension de ce stimulus, donc affaire à suivre. Peut-être des nouvelles cette semaine. Ça fait un autre truc de plus à attendre puisqu'on attend déjà le nouveau ou la nouvelle président américain dans les heures qui viennent. Enfin, on espère encore une fois, comme je vous le disais, ce serait mieux qu'on sache demain, sinon ça pourrait être un tout petit peu compliqué. Niveau chiffres économiques aujourd'hui, pas grand-chose. On a l'ISM Non-Manufacturing PMI qui sera publié cet après-midi, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un écoute ce qu'ils disent. Il y a Madame Lagarde qui parlera aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on l'écoute non plus. Et puis, il y aura également le trade balance aux États-Unis. Mais là encore, je pense qu'on aura bien d'autres chats à fouetter ces prochaines heures. En tout cas, la nuit sera longue. Donc, de mon côté, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français pour ne pas rater la vidéo de demain matin où j'espère qu'on aura plus de trucs à dire sur les élections et sur la suite des événements. Parce que entre vous et moi, j'ai un peu l'impression que ça reste quelque chose d'assez court-termiste. On a les élections, après ça risque de pas changer grand-chose, si ce n'est que ça va être un gros bordel au niveau de la transition. Et puis ensuite, on pourra repartir dans un monde normal, dans un monde où on pourra s'occuper de l'inflation, des chiffres de l'emploi, comme d'habitude, que des choses hyper passionnantes sur la suite des événements. Et puis, n'oublions quand même pas, au milieu de tout ça, que la Fed est en embuscade, puisque dès demain, la Fed va se réunir jusqu'à jeudi soir. Jeudi soir, moment auquel Powell va nous annoncer qu'il baisse les taux de 25 basis points. Oh, surprise ! À moins que la moitié des États-Unis soient dans la rue demain matin. Et donc, à ce moment-là, ils vont peut-être devoir baisser les taux en catastrophe de 50 basis points pour rassurer la population, leur dire « vous inquiétez pas ». Même si tel ou tel est au pouvoir et ça ne vous satisfait pas, c'est pas grave, la bourse va continuer à monter. Alors, nous on se dit à demain, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, et puis passez une très bonne soirée, bonne nuit devant vos écrans avec vos popcorn et vos Budweiser et vos ailerons de poulet, et puis bah, nous on se dit à demain, peut-être même plus tôt qu'aujourd'hui. Allez, bye bye.